Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain. Le sportif. Terrain. Le
sport. Y'a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit que tu viens jouer à l'Université de Montréal. You're gonna compete with the best against the best tous les jours.
Gagner beaucoup des trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So, I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plugged in my ear.
Le terrain. Le sportif. Terrain. Le.
On commence l'émission, chers auditeurs, chers auditrices. On va parler de soccer. Aujourd'hui, on va en parler pas à peu près du soccer. Le Ballon d'Or, le CF Montréal, qui est le pays avec le plus de joueurs différents qui ont remporté le Ballon d'Or. C'est la France, l'Argentine, le Brésil, l'Italie, l'Allemagne, le Canada. On va voir ça. Qu'est-ce que le Ballon d'Or également, hein? Le Ballon d'Or qui est d'ailleurs le trophée qui est remis au meilleur joueur de l'année, tout simplement le meilleur joueur de la saison au monde. Et il joue presque toujours en Europe, presque tout le temps, sauf je crois que Miami, l'Inter de... Le Lionel Messi l'a gagné une fois, mais à cause de ce qu'il a fait avec l'Argentine, mais il appartenait à l'Inter de Miami au moment où est-ce qu'il l'a gagné. Fait que bon. Mais en général, c'est pas mal pour un parcours européen en Ligue des Champions ou pour une Coupe du Monde ou un Euro. Donc voilà, sauf quand c'est Vinicius, évidemment, on lui vole son ballon d'or comme l'année dernière avec le ballon d'or qui a été donné à Rodri, qui quand même le méritait, là, c'est quand même un bon joueur Rodri, mais Vinicius le méritait beaucoup plus. Parenthèse fermée, on commence l'émission avec l'Université Laval de Sainte-Foy dans la ville de Québec. Le rouge et or, cette équipe féminine de soccer qui a été en finale mondiale contre l'équipe hôte en Chine, le Shanghai University of Sport. Ça, c'est les Jeux, la Coupe du monde universitaire FISU, F-I-S-U. Eh bien, le parcours du rouge et or de Laval, la Coupe du monde universitaire, il a pris fin en finale samedi dernier dans un revers de 3-1 contre l'Université du sport de Shanghai devant 21 556 partisans de l'équipe chinoise au stade Suyouan. Ça, c'est plus que le stade Saputo rempli en passant. Puis Laval avait pourtant connu un départ de rêve prenant les devants là, après seulement 2 minutes de jeu sur un corner de Geneviève Girard. Elsa Lessard dirigeait le ballon de la tête vers le but et Émilie Grondine, bien placée sur le pas de la porte, n'a pas failli. Et ce but marquait la première fois que Shanghai concédait un but dans tout le tournoi parce qu'on sait quand même les Chinoises au soccer féminin, elles sont quand même pas mauvaises là. Sont beaucoup meilleurs que leurs camarades masculins parce que l'équipe soccer chinoise masculine, là, ça fait quand même dur. Mais côté féminin, la Chine, ils ont des équipes qui ont de la gueule souvent. Et ben, l'avance a été de courte durée parce que moins d'une minute après le but de Laval, ben, un tir de Fang Xinson a été dévié dans son propre filet par la défenseur Florence Thibault, ce qui a amené la marque à 1-1. Puis Shanghai a continué de presser et a été récompensé à la 21e minute. À la suite d'un revirement, l'attaquante Li Hongyin a profité d'un ballon piqué de Sikian Wang pour donner les devants 2-1 à son équipe. Puis après ça, ben, ça a fini 3-1. Et malgré ça, la défaite, la capitaine de Laval, Mathilde Rousseau, elle a été nommée joueuse par excellence du tournoi. L'équipe championne, quant à elle, a vu deux de ses joueuses être honorées. La gardienne Chen Liu, auteur de 3 arrêts cruciaux en finale, a été désignée meilleure gardienne. Sa coéquipière Fang Xinson a quant à elle remporté le titre de meilleure marqueuse. Et l'Université Sydney a remporté le prix pour l'éthique sportive. Ça, c'est important l'éthique sportive, hein, parce qu'il y a des équipes au soccer masculin là, qui jouent en Coupe du Monde, qui gagnent des Coupes du Monde, puis qui se comportent en bombe des fois. Je nomme pas qui, hein. Vous penserez qui vous voulez. Il y a plusieurs pays qui ont gagné la Coupe du Monde, donc Voilà, donc c'est important de récompenser des équipes sportives qui ont des bonnes attitudes et qui respectent l'éthique sportive. Avec cette défaite, Laval termine le tournoi avec un dossier de 3 victoires, 1 match nul, 1 défaite, tandis que Shanghai, ben, c'est un parcours parfait là, de 4 victoires, 0 match nul, 0 défaite. Puis la médaille d'or, la médaille d'argent de Laval, pardon, représente la deuxième médaille canadienne en deux présences à cette Coupe du Monde après l'or remporté par Ottawa en 2019. Le Rouge et Or sera en action là, vendredi qui s'en vient alors qu'il accueillera Bishops au stade TELUS Université Laval dans le cadre de la saison régulière du RSEQ. Donc tu pars de quand même hein, de Shanghai, puis après ça tu reviens pour jouer à Québec City. C'est pas le même monde, hein? C'est pas le même monde. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, là, si je ne m'abuse, Shanghai c'est le plus grand port de toute la planète. Un port, on parle ici là, des bateaux, là, harbor en anglais, c'est le plus gros port au monde. Et si je ne m'abuse, c'est également une des plus grandes, un des plus grands systèmes de métro au monde, je crois, celui de Shanghai. Donc, c'est une ville qui est énorme. Puis c'est ça, c'est justement 808 km, 808 km de métro. À Shanghai, ça, 808 km, là, c'est à peu près d'ici jusqu'à... C'est plus que New York, là. Ça veut dire que c'est desservi pas à peu près, avec environ 2,83 milliards de passagers qui utilisent ce métro-là, donc le métro de Shanghai. Voilà, donc maintenant, avec le métro le plus grand au monde, eh bien maintenant, ils auront l'équipe championne féminine de soccer de la FISU. Donc, félicitations à eux, mesdames et messieurs. Il y a Beijing qui en a un peu plus, là, c'est 879 km de métro. Et Shanghai, c'est 808 km. Donc, voilà. 808 km, c'est énorme, mesdames et messieurs. Parce que, juste pour donner une idée, là, Montréal-Ottawa, c'est 200 km à peu près. Montréal-Toronto, c'est environ 600 km. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de métro. Donc, je me demande si à Shanghai, il y a beaucoup de trafic avec un métro comme ça. Mais on le sait, en Chine, ils sont beaucoup de population. Là. Fait que, bon, c'est énorme ce système de métro-là. Donc, on essaie d'informer ici au terrain sportif de d'autres choses que du soccer, de sport, puis des affaires comme ça. Et pour vous donner une idée, Washington DC, Montréal, là, c'est 930 km. Donc, c'est un peu moins de système, un peu moins de transport que en kilomètres là, que Brossard, Montréal, jusqu'à Washington, District of Columbia. Donc, félicitations aux Rougeurs de l'Université Laval qui remportent quand même la médaille d'argent à ces Jeux universitaires mondiaux.
Fait partie d'une force majeure qui éblouit. balance, qui me balance tous ces kilos, qui me fixe de tous ces chiffres, qui me regardent, me prennent de haut. J'en ai marre de cette oppression du parfait paraître sur les réseaux. Utopie généralisée par ces pathétiques filtres photo. J'en ai marre de compter mes likes, qu'on me compterait des lingots, qu'on m'apporte le roi comptable, le meilleur de tous les réseaux. J'en ai marre que ma richesse ne se résume qu'à des pouces en haut. Une addiction aussi vicieuse que le manque d'un alcoolo. J'en ai marre, j'en ai marre. Beau génie qui me colle un étiquette au dos. Bien trop électro pour la pop, mais trop pop pour l'électro. J'en ai marre de tous ceux qui disent t'es juste pas dans le bon réseau. Oublie sa fille, t'as le beat, mais pas le casting pour la radio. J'en ai marre de tous ces bandits, de tous ces compromis, de tous ces mots. Des galères qu'on est tous prêts à faire pour un trophée d'or et de trop. J'en ai marre de voir tous les pères s'effondrer et tomber du plus haut. Car mon réel, j'ai mon métier. Putain de super-héros. J'en ai marre, 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 j'en ai marre.
Deux chansons back-à-back, chers auditeurs, chers auditrices, Le Couleur, Club Italien, et encore une fois, je la mets souvent à l'émission, Debbie Tebs, artiste québécoise, avec la chanson J'en ai marre. Bonne chanson qui fait un peu d'électro, une bonne artiste qu'on aime bien. Maintenant, on va parler du Ballon d'Or plus au niveau sportif, puis vous allez voir qu'avec ce Ballon d'Or-là, que la France, eh bien, elle domine pas mal tout le monde. Donc déjà, le Ballon d'Or, c'était le sixième joueur français qui gagnait un Ballon d'Or, le sixième joueur différent. Aucun autre pays a eu autant de joueurs différents qui ont gagné le Ballon d'Or. Et en termes de Ballon d'Or gagné au total, eh bien c'est le huitième pour le Ballon d'Or. Aucun autre pays a fait ça, sauf, évidemment, Lionel Messi avec l'Argentine. Donc l'Argentine a gagné 8 fois le Ballon d'Or, puis Messi, bon, c'est lui qui a remporté les 8. Puis sur les 8, comme je l'ai dit tantôt, il y en a au moins 2, Van Dijk puis Lewandowski, là, ils ont dû pleurer pas mal quand ils ont appris qu'ils l'ont pas gagné, puis que c'est Messi qui l'a gagné. Puis on peut se demander si Messi s'appelait, je sais pas moi, Gonzalez, ou puis si c'était, si c'était pas une superstar comme ça, est-ce qu'on lui aurait donné? Parce que vous savez que Messi, le poids Messi, il est énorme. Donc des fois, c'est pas juste la performance qui compte, mais c'est l'aura d'un joueur. Et il y a des petites préférences chez certains pour choisir un joueur comme Messi versus un autre. Donc quand même, très grosse performance de la France qui l'a remporté 3 fois avec Michel Platini en 1983, 84, 85. Platini d'ailleurs d'origine italienne, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui est né en France à Jeuf. C'est une très bonne personne d'ailleurs, Michel Platini. Il avait notamment défendu des joueurs de l'équipe de France qui s'étaient fait ramasser par les médias français parce qu'il ne chantait pas l'hymne national. Et il a tout simplement dit que moi non plus, ben, que lui non plus ne le chantait pas parce qu'il ne trouvait pas ça intéressant et puis qu'il ne s'en allait pas en guerre. Je crois que c'était ses mots, mot pour mot, par rapport à l'hymne national français. Et Dieu sait que si Benzema, Mbappé ou Dembélé aurait dit qu'est-ce que Platini aurait dit, là, je peux vous garantir qu'il se ferait ramasser dans les médias encore aujourd'hui, 5 ans plus tard. Et puis, il a dit ceci, « Notre génération ne chantait jamais la Marseillaise », rappelle Platini. « Je pars du principe que c'est un hymne guerrier. Ne fait pas nécessairement du sportif du haut niveau un patriote ou pas. » Donc, il a répondu quand même de façon très éloquente et une façon très classe à ces journalistes-là, puis ces gens de la population, en fait, qui crachent sur les joueurs de l'équipe de France parce qu'ils ne chantent pas l'hymne national, surtout ceux qui sont un peu colorés. Donc ça, c'est encore une fois une vérité, c'est factuel et c'est pas mon opinion, c'est tout simplement un fait. Donc voilà, Michel Platini, respect à lui. Également, joueur français qui a gagné le Ballon d'Or, Raymond Coppa, en 1958. Puis oui, mesdames et messieurs, en 1958, il y avait de la diversité en France déjà, parce que son nom, on l'appelle Coppa, mais son vrai nom, c'est Kopaszewski, polonais d'origine qui est né à Neu-les-Mines, dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Donc, félicitations à lui également. Zinedine Zidane, en 1998, seulement un Ballon d'Or pour lui. Il aurait pu en gagner peut-être au moins un autre s'il n'avait pas donné un coup de tête à Materazzi en finale de la Coupe du Monde 2006. Puis c'est Cannavaro qui l'a gagné, l'Italien. Puis on n'a rien contre Cannavaro, c'est un bon défenseur. Puis ça fait du bien aussi que les défenseurs le gagnent des fois. Sauf que Zidane, s'il ne met pas son coup de tête, peut-être que le Ballon d'Or y est à lui là, cette année-là. Puis ça lui a fait un deuxième, mais il y en a déjà eu un, donc il partage le gâteau avec les Italiens, puis c'est bien correct. Un autre qui a gagné le Ballon d'Or, Jean-Pierre Papin, en 1991. Un des seuls joueurs français qui l'a gagné en jouant dans un club français. Si je ne m'abuse, à cette époque-là, il jouait avec l'Olympique de Marseille en France. Lui qui a également joué pour le AC Milan en Italie, qui est en Europe également. Donc, Jean-Pierre Papin, un bon petit gars de l'OM également. Et on rajoute Karim Benzema en 2022. Lui qui est un des meilleurs attaquants de tous les temps, si vous me demandez mon avis. Parce que c'est un joueur qui peut passer, c'est un joueur qui peut dribbler, c'est un joueur qui n'a jamais pris un carton rouge dans toute sa carrière. Je ne sais pas, il est à combien de matchs là, il doit être à peu, pas loin de 1000 matchs. Puis un gars avec une attitude irréprochable sur le terrain, titulaire avec tous les plus grands coachs d'Europe dans le plus grand club du monde, le Real Madrid. Mais malgré tout ça, malgré tout ce qu'il a fait en France, il n'est pas aimé. Donc voilà un autre qui a souffert côté équipe nationale française puisqu'il a été exclu pendant une partie. Et le dernier, ben, c'est Ousmane Dembélé, donc 6 ballons d'or pour la France avec 6 joueurs différents. Les autres pays, l'Allemagne en a 5 joueurs différents, l'Italie a eu 5 joueurs, Brésil 4, Angleterre 4, Pays-Bas 3, Portugal 3, Espagne 3, l'Union soviétique 3, l'Argentine 1 joueur, et là il y a plein de pays qui ont eu un petit joueur, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Tchécoslovaquie, Danemark, Hongrie, Libéria. Le seul ballon d'or africain, c'est George Weah qui joue avec le AC Milan, qui l'a remporté dans les années 90, où est-ce que le championnat italien c'était... Mesdames et messieurs, la classe de la classe aujourd'hui, le championnat italien là, est très loin de ce qu'il était, mais il est quand même intéressant. Un de l'Irlande du Nord, un de l'Écosse et un de l'Ukraine. Vous comprendrez que la très grande majorité des pays sont des pays européens, puisque avant, il fallait que le joueur joue en Europe ou qu'il soit de nationalité européenne pour le gagner. Donc, ça excluait tous les grands joueurs, par exemple, d'Amérique du Sud et d'Afrique qui jouaient dans leurs championnats respectifs. Donc, voilà pour le Ballon d'Or. Et quant au joueur qui en a remporté le plus, ben Messi 8 fois, Ronaldo 5 fois, Platini 3, Cruyff, celui des Pays-Bas, 3 fois, Marco van Basten des Pays-Bas, 3, Beckenbauer, l'Allemand, 2, Ronaldo, le Brésilien, 2, Di Stefano, l'Espagnol, 2, Kevin Keegan, l'Anglais, ça fait longtemps, ça, 78-79, qu'on l'appelait King Kev ou Mighty Mouse, en 2 fois en 78-79. Puis Karl-Heinz Rummenigge, l'Allemand, 2 fois en 80 et en 1981. Donc voilà pour le décompte des Ballons d'Or. Puis encore une fois, félicitations à Ousmane Dembélé qui a dépassé toutes les attentes. J'écoutais des anciens entraîneurs qu'il a eu. Il mentionnait que c'était un très bon joueur puis qu'il savait qu'il allait être un grand joueur. Mais de là à gagner un Ballon d'Or, là, il n'y a pas grand monde qui aurait parié sur Dembélé pour être Ballon d'Or. En même temps, ça l'a aidé qu'il joue avec le Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de bons joueurs autour de lui, comme Messi en a eu, puis tous les autres, Benzema également, tous les autres grands joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or. Mais si vous me demandez mon avis, félicitations à Dembélé. Mais c'est pas non plus un des plus grands joueurs. Là. Dembélé, quand on va faire le décompte, mettons dans 30-40 ans, ou même dans 20 ans, on parle du top 50 des joueurs de soccer de tous les temps. Il n'est pas dans le top 50, là, Dembélé. Là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont devant lui. Et des joueurs notamment qui n'ont jamais gagné le Ballon d'Or. Par exemple, Drogba est devant Dembélé. Rooney est devant Dembélé. Di Maria est devant Dembélé. Énormément de joueurs. Samuel Piet est... Non, c'est pas vrai. On va relaxer un peu, là. On va pas amener Samuel là-dedans. Là. Samuel est très loin du top 500 meilleurs joueurs de tous les temps. Là. Ben, 500 peut-être. Mais top 100, c'est sûr que non. Des joueurs québécois, il est dans le top 50, ça c'est clair, là, dans le top 10. Mais des joueurs internationaux, Samuel. En termes d'attitude, par contre, si on ferait un décompte là, des meilleures attitudes dans le monde du soccer, Samuel Piet dans le top 100, facile. Facile, facile, facile. Donc voilà, ça conclut la grosse partie du Ballon d'Or France Football 2025 remis au joueur français Ousmane Dembélé. Et voilà, mesdames et messieurs, la France, pays de foot, pays de soccer, pays qui forme énormément de joueurs, pays qui est très, 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 un très bon pays au soccer mondial, grâce notamment à sa diversité, on vient de le montrer là, avec les Ballons d'Or. Hein. Un Français d'origine polonaise, un Français d'origine italienne, un d'origine mauritanienne, un d'origine algérienne, un autre d'origine algérienne et un Français de souche, comme on dit. Donc voilà, c'est de la diversité. Puis tous ces joueurs-là, la beauté de la chose, c'est que ce sont des Français. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça. Là. Ils voient une équipe, ils voient un peu de personnes colorées, puis après ça, ils se disent « Ah, ben là, ils sont pas... » Non, 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 non. Ce sont des Français. Tout comme quand l'équipe nationale de Namibie en Afrique. L'Afrique, là, c'est pas des Islandais, là. En général, en majorité, je parle. Quand l'équipe nationale de Namibie joue au rugby, eh bien, la majorité des joueurs sont blancs. Et j'entends personne chialer comme les gens le font avec l'équipe de France. Vous me direz, la Namibie, on connaît pas, parfait. Quand l'Afrique du Sud, qui est quand même un pays connu, majorité de population africaine, donc noire pour la très grande majorité. Quand on voit la majeure partie des joueurs de rugby de l'équipe nationale en Afrique du Sud sont blancs, et ce sont des Sud-Africains. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne le sont pas, ce sont des Sud-Africains. Mais on n'entend personne faire la même rhétorique, le même genre de commentaire. « Ouais, mais c'est pas des Sud-Africains !» Parce qu'ils n'ont pas la couleur de peau de la majorité. Non. Ce sont des Sud-Africains. Ils sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. Ils parlent la langue de là-bas. Ce sont des Sud-Africains. Les Français qui jouent avec l'équipe nationale de France, Dembélé, Benzema, peu importe le nom que vous allez me sortir, nés en France, grandis en France, langue maternelle, c'est la langue du pays, donc le français, pour la très grande majorité. Parce que c'est intéressant, parce que quand tu débats avec des gens comme ça qui disent que les Dembélé puis tout ça, tu dis, puis Benzema, ils disent que c'est pas des Français. Première chose qu'ils disent, c'est qu'ils sont pas nés en France. Faux. C'est factuellement faux. Ils sont tous nés en France. D'ailleurs, quand la France a gagné la Coupe du Monde en 2018, la quasi-totalité des joueurs étaient nés en France, sauf peut-être Mandanda qui est né au Congo. Deuxième gardien de but d'ailleurs. Hein, pas fait grand-chose durant la Coupe du Monde. Mais bon, parenthèse fermée. Ils sont nés en France. Mais donc, on est encore en 2025 avec des personnes qui pensent que couleur de peau égale nationalité. Et couleur de peau égale, ça t'empêche de faire partie de la communauté de la nationalité en question. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça encore aujourd'hui, là. Dès que les gens se réveillent, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le contenu et le contenant. C'est pas la même affaire. Pas la même affaire pantoute. Le contenu, c'est la personne, c'est la culture. Le contenant, c'est l'apparence physique. Donc, juste pour remettre les pendules à l'heure, je sais que j'en ai parlé un peu là, dans les dernières émissions. Michael Jordan, c'est un Américain. Barack Obama, c'est un Américain. Lamine Yamal, c'est un Espagnol. Zidane, c'est un Français. Patrice Evra, c'est un Français. Benzema, c'est un Français. Raheem Sterling, c'est un Anglais. Marcus Rashford, c'est un Anglais. Même, je vous dirais, dans Elon Musk, c'est un Sud-Africain. Né, grandi là-bas. Que les gens aiment ça ou pas, il vient de la place. Il vient de là-bas. Voilà. Mesut Özil, c'est un Allemand. Right? Donc, il va falloir arrêter d'être obsédé par le contenant et regarder le contenu. Parce que on prend Lamine Yamal, par exemple. Hein? C'est un des futurs cracks. Peut-être certains le voient comme le futur meilleur joueur au monde. Il est jeune, là. Je pense qu'il a 18 ans. C'est très jeune. Déjà finaliste au Ballon d'Or, quand même, faut le faire, hein, pareil. Lui, là, quand on le regarde, on peut en effet réaliser, peut-être se demander, il vient d'où originalement, c'est quoi ses origines, etc. Parce que je crois qu'il est mélangé marocain avec un autre pays africain, j'ai oublié lequel. Mais tu prends Lamine Yamal, tu le débarques au Maroc, mettons que Lamine Yamal, il n'est pas connu, là. Tu l'amènes au Maroc, première question dans les 30 secondes qu'il va se faire poser. Tu viens d'où? Il vient pas de la place, il vient pas de là-bas. C'est ses parents qui viennent de là-bas. Lui, il a des origines, c'est important les origines. Mais où est-ce qu'il a grandi, où est-ce qu'il s'est construit, la langue qu'il a parlé, le dépanneur du coin dans lequel il allait acheter ses petites barres de chocolat ou les sacs de chips, le centre de formation dans lequel il a été, les classes à l'école avec ses camarades avec qui il a parlé, avec qui il a rigolé. Tout ça, c'est en Espagne, même si ce sont des personnes, par exemple, qui ont des origines ethniques variées. C'est possible. Très, très, très possible, tout ça, là. Parce qu'il y a plusieurs sortes de français, d'espagnol. C'est pas le français qui vient de la Corse puis le français qui vient de la banlieue parisienne. C'est pas la même culture. le Québécois de Montréal puis le Québécois qui habite à cette île, la culture est différente. Voilà, donc c'est dit, c'est fait. Félicitations au Ballon d'Or, vive la diversité. C'est dit, c'est fait.
L'hiver fond, la ville dégèle. Dormis les plantes sur ton balcon. Sous ton ciel, la saison nouvelle se montre de temps en temps. L'hiver fond, la ville dégèle. Est-ce que même sans les blues de l'hiver, ce sera comme avant? Même si t'as plus froid, m'aimeras-tu au printemps? Et les fleurs poussent entre les craques du pavé. Si tu décides de m'oublier pour un instant, tu sais, ce ne sera plus comme avant. Est-ce que même sans les blues de l'hiver, comme avant, même si t'as plus froid, m'aimeras-tu au printemps? Sans tes peines et tes tempêtes, tes larmes dans le vent, même si t'as plus froid.
Désobéir formellement à un ordre donné. Désobéir sciemment à un ordre donné. Ne pas avoir exécuté un ordre reçu. Exécuter un ordre sous l'intervention d'un officier. Ne pas obéir à la première injonction de la supérieure. Mauvaise volonté, exécuter un ordre. Murmurer contre un supérieur ou contre un ordre.
Un avertissement. Un an d'obéissance de tous les instants. Un an pour faire un homme.
L'armée fait des crevures.
Sans murmure.
Tant de paix, taux de perte, 7%. Tous ceux que l'armée tue tout simplement sans faire d'histoire.
Un soldat malade est un tir au cul.
Tous ceux que l'armée laisse crever sans faire d'histoire.
Un soldat qui se suicide est un mauvais soldat.
Tous ceux que l'armée pousse à la mort tout doucement.
Ceux qui crèvent, ils les enterrent dans les honneurs militaires.
Ceux qui se ratent sont bons pour la prison.
L'armée assassine
en silence. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire.
Silver Herzog, condamné à 2 ans de prison le 20 mars.
Et tous les anonymes qui refusent de se taire, refusent de se soumettre à la démence nationale.
L'armée remplit ses mitards de ceux qui s'insurgent.
Bataillon disciplinaire, unité spéciale, forteresse, prison.
L'armée craque de partout.
Plus
de 2000 insoumis et déserteurs croupissent dans les tôles, sans compter les milliers de soldats aux arrêts dans toutes les unités. L'armée grave de partout, l'armée emprisonne. L'armée craque de partout. Nous ouvrirons les prisons, nous ouvrirons les casernes. Nous ouvrirons les prisons, nous ouvrirons les casernes.
Si, si te pega e quando passa po' quartiere si scinni in da smartanere e si te firma rostonghi. Tenga a te rinde pensiero come faccia sta serena. Si me stessa sembra assieme mussaccio che è una pazzia.
Come mamma fa, amma fuori perché sta capando.
Perché all'amore non lo comando, ti sascia poco, ma papà non lo sta andando. Perché si ho vinto, che mi accompagno, tu sei la madre, ma si accompagno. Perché l'amore non lo comando, ti sascia poco, ma papà non lo sta andando. Perché si ho vinto, che mi accompagno, tu sei la madre, ma si combagna.
E mi fa male a te sta lontana, a vivere con te e passare le giornate. E ci ha pensato a sti cose, ha lasciato tutte cose pure giù e una volta. Però mo non è come sto con te, ma tu resti tu. E fa male a chi buono non vuoi giù. Che ci sta chi soffre che le canunzi tu. Fin da me ci sta un vuoto che non si colma giù. Perché all'amore non ho comando, te saccia poco ma mi pare una tant'anna. Perché se ho vinto che mi accompagna, tu sei l'amante, ma sei compagna.
Perché all'amore non ho comando, te saccia poco ma mi pare non è tant'anno. Perché se ho vinto che mi accompagno, tu sei l'amante, ma si accompagno.
Perché l'amore non si comanda e tu non mi sei mogliere, ma si accompagna. Spartisso bene con chi mi tiene a fianco, ma non si può, perché se ci chiama l'amante.
De retour au terrain sportif sur zone de CSM et de CFAC, on vient d'entendre la chanson « Tout reste tout » du rap napolitain de V Monster. Encore une fois, Napoli, l'une des plus belles villes au monde, une des villes les plus spéciales au monde, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, Napoli qui ont malheureusement perdu le premier match de la saison contre l'AC Milan, ça se passait hier. 2-1 du côté de Milan, c'était le gros match de la journée dans le championnat italien. On va parler un peu CF Montréal, parce que le CF Montréal, ben, il était en action pour son avant-dernier match de la saison. Une saison catastrophique, disons-le, il ne faut pas avoir peur de dire les détails. Ça a été une saison pour le CF Montréal en dessous des attentes. Déjà que les attentes n'étaient pas très élevées pour l'équipe qui a pour domicile le Stade Saputo à Montréal dans la province de Québec. Et là, c'était un match chez une équipe qui était quand même en bonne position pour faire les séries. Là, on parle de Charlotte qui était quatrième dans l'Est avant le début du match. Charlotte, c'est une équipe quand même qui va faire les séries. Là, 52 buts marqués en 32 matchs. Alors que nous, CF Montréal, ben, on en a 33. Donc, ils ont marqué presque 20 buts de plus que nous. Puis, c'est une équipe qu'on a été capable de battre, mesdames et messieurs, à cause, essentiellement, d'un carton rouge pour une faute stupide du défenseur de Charlotte, Malanda, qui s'est fait expulser en première mi-temps. Et là, à partir de ce moment-là, ben, le CF Montréal a tout simplement déroulé. C'était 1-0 là, pour Wilfried Zaha et Charlotte qui avaient ouvert le score à la 10e minute. Ensuite de ça, Sealy a fait 1-1 avec un très beau coup franc. Herbert a fait 2-1. Dante Sealy a fait 3-1 et Owosu à la fin a fait 4-1. Donc le CF Montréal qui signe une victoire à l'extérieur, une des rares victoire à l'extérieur, puisque c'était la quatrième de l'année, ce qui n'est pas si pire quand même, parce que quand on regarde, là, si on fait le classement dans l'Est des 15 meilleures équipes, il y a 15 équipes, il y a 8 équipes qui sont qualifiées pour les séries, ou du moins qui sont qualifiées au début des séries, il y en a 8, puisqu'après ça, il y a un match de barrage entre le 8e et le 7e. Si on regarde le calendrier à l'extérieur, ben le CF Montréal en 16 matchs, là, c'est 16 points. 4 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 20 buts marqués, 24 buts encaissés. Et donc, on est seulement à 1 point d'une place en série si le calendrier comptait, là, si mettons... dans les statistiques, ce qui comptait, c'était les performances à l'extérieur, on serait quand même pas si pire. On serait pas bon, mais on serait pas si pire. Alors que si on regarde le calendrier à domicile, on a joué 16 matchs à date. Ben là, on est à 16 points d'une place en série, si on suit au calendrier à domicile du CF Montréal. 16 matchs joués à domicile, 2 victoires, 5 matchs nuls, 9 défaites, moins 19. 13 buts marqués, 32 buts encaissés. Tout simplement. Ni plus ni moins que ça. Donc, à l'extérieur, quand même, selon ce que je vois ici, selon mes statistiques, là, il y a 9 équipes qui sont pires que nous dans la ligue. Seattle, Toronto, Colorado, Salt Lake, DC United, Saint-Louis, Kansas City, Red Bulls, Atlanta et Los Angeles Galaxy. Donc, 10 équipes, en fait. Il y a 10 équipes qui sont pires que nous. C'est sûr qu'il y en a certaines, comme Toronto, qui n'ont pas joué tous leurs matchs, encore une fois, à l'extérieur. Mais à l'extérieur, on a une saison, je vous dirais, qui est « correcte », entre guillemets. Mais à domicile, on est les derniers dans toute la ligue. Non seulement dans l'Est, mais dans toute la ligue. 2 victoires, 5 matchs nuls, 9 défaites. Et la seule équipe, en fait, il n'y a pas d'équipe pire que nous. Devant nous, au 29e rang, c'est DC United avec 2 points de plus. Toronto avec 2 points de plus. Et la Nouvelle-Angleterre avec 4 points de plus. Donc voilà pour le CF Montréal quand même. Il faut le mentionner, les choses n'ont pas bien été cette saison. À domicile, ça a été très mauvais. Mais à l'extérieur, quand même, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. C'est pas bon. Mais c'est pas dégueulasse. Puis là, il nous reste un petit match à l'extérieur. Ça va être le 18 octobre contre Cincinnati. Puis ça va être difficile d'aller chercher des points là-bas. Maintenant, quant au meilleur buteur du CF, ben Prince Owosu, 13 buts. Dante Sealy, c'était quand même ses 7e et 8e buts. Vrioni, écoutez bien ça. Giacomo Vrioni, monsieur joueur désigné, qui est débarqué de la Nouvelle-Angleterre pour aller jouer avec Montréal. Quand on regarde là, ses statistiques, il a joué en MLS, il a joué un match, 2, 3, 4, 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs, 8 matchs, 9 matchs. Il a joué 9 matchs à domicile, notre ami Vrioni. En 9 matchs, eh bien, il a marqué 3 buts en 9 matchs. Ça, c'est ses statistiques. 3 buts en 9 matchs. C'est pas catastrophique, on s'entend. Et il y a également un carton rouge, notamment le 31 mai à domicile contre la Nouvelle-Angleterre. Un carton rouge stupide de sa part qui a fait en sorte que on se fasse battre 3-0 par la Nouvelle-Angleterre à domicile alors qu'on les dominait de A à Z avant ce carton rouge-là. Donc quand même, quand je parlais la semaine dernière de mauvaises décisions, d'erreurs stupides, que ce soit par des cartons rouges, par d'un manque de concentration en défense, des mauvais passes, etc., des erreurs, ça c'est un bel exemple. Et Vrioni, quand même, malgré ça, avec ses 3 buts, c'est le troisième meilleur buteur du CF Montréal, là. Quand même, il faut le faire. Quatrième, Lottori, 2 buts, puis Petrasso, 2 buts également. À part ça, il y a plusieurs joueurs qui sont quand même là à un but ou 0 but. Hein. Vous comprendrez qu'il y en a beaucoup qui sont à 0 but. Et notre ami Ivan Jaime, qui continue à jouer, titulaire parfois, parfois non, mais il n'y a toujours pas une passe ni un but, mais on va lui donner le temps quand même de s'acclimater. Là, il est rentré en deuxième mi-temps, la 60e minute, puis il a quand même fait des belles choses, on le voit, c'est un joueur talentueux. Puis excusez-moi, j'ai dit une petite erreur, il a fait une passe justement, sa première passe de la saison sur le but de Dante Sealy, le troisième but du CF Montréal. Donc félicitations à lui, et lui... il fait bien les choses. Il fait bien les choses depuis qu'il est arrivé. Il n'y a pas trop de pression parce que l'équipe n'a pas à se qualifier pour quoi que ce soit. C'est quand même un joueur qui est quand même encore jeune. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir amener la saison prochaine. Et parlant de jeunes joueurs, il y a la Coupe du Monde des... pas la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et lors de la première journée de cette compétition-là, de cette Coupe du Monde qui se passe au Chili des moins de 20 ans, l'Ukraine jouait contre la Corée du Sud. Et qui a marqué le premier but? Hennadi Sinchuk à la 13e minute dans une victoire de 2-1 des Ukrainiens contre les Sud-Coréens. Et donc, voilà qui brille, lui, avec son pays. Donc, je le répète, là. Je le répète encore une fois. Jaime, Sili, Owosu, Vrioni, Sinchuk. C'est pas dégueulasse en attaque. C'est pas dégueulasse. Tu rajoutes un autre attaquant de pointe, parce que si Osu se brise, se blesse, ça va aller mal. Surtout si Vrioni est blessé. Mais si tout le monde est en santé, avec un autre attaquant, un autre numéro 9, honnêtement, j'ai déjà vu pire dans une équipe de soccer. En défense, par contre, il faut que ça soit beaucoup plus solide. Beaucoup plus solide en défense. Il faut que ça soit solide partout également. Puis j'espère qu'on va donner de la chance au coach quand même, Marco Donadel, là, de rester la saison prochaine. On l'appelle coach par intérim, mais les joueurs semblent l'apprécier. Il est sympathique en conférence de presse. Il joue bien sur le terrain. Ça joue bien malgré les défaites. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Puis beaucoup de semaines également en avant. Là, j'ai parlé de ça. Que Marco Donadel quand même propose du soccer de qualité pour le CF Montréal. Donc voilà, calendrier est presque terminé. La saison était presque terminée pour le CF. Il reste quelques matchs. Là, il reste à domicile. La semaine prochaine, on va jouer contre Nashville, qui est quand même une très bonne équipe, avec un des meilleurs buteurs de la Ligue, Sam Surridge. Ça se passe samedi prochain. Puis c'est à 14h30, hein, c'est en après-midi. Et le dernier match de la saison sera à l'extérieur à Cincinnati. Puis ça va se passer le 18 octobre. Coup d'envoi à 18h. Un des rares matchs d'ailleurs en après-midi, là, le dernier match à domicile. C'est un peu dommage. Un match de soccer, selon moi, ça devrait toujours se jouer en soirée. Mais bon, c'est comme ça, c'est la MLS qui décide des calendriers. Maintenant, on va y aller avec un peu d'actualité universitaire. On a parlé là, du Rouge et Or de Laval tantôt, qui a perdu la finale du côté de Shanghai en Chine. Mais on va parler de football universitaire et collégial, division 1, 2 et 3, parce que c'est important au terrain sportif de donner la parole et de parler un peu du sport moins médiatisé, puis du football collégial. J'en parle pas souvent, même si, à mon souvenir, c'était dans le Journal de Montréal à l'époque où est-ce que je lisais le Journal de Montréal, on pouvait voir les résultats du RSEQ football collégial. On commence avec l'universitaire. Vous le savez, 5 équipes, 4 matchs par fin de semaine. 2 matchs par fin de semaine, pardon. Tout d'abord, le 27 septembre, c'était samedi, 34-21, victoire de Sherbrooke à Sherbrooke contre McGill. Vous le savez, le match du Vert et Or est diffusé sur les ondes de CFAC, le 81,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Prochain match sur les ondes de CFAQ, là, c'est le 10 octobre, le 17 octobre également et le 25 octobre. Donc, trois matchs encore à se mettre sous la dent sur les ondes du 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Donc, une victoire très importante pour Sherbrooke. C'était sa deuxième dans l'année. Et Montréal, les Carabins, l'Université de Montréal, qui ont écrasé Concordia 52-2 à Concordia. Et Concordia, maintenant, ben, ils sont bons derniers avec une victoire, 4 défaites, 70 points marqués, 177 points accordés. C'est le pire résultat, tant offensivement et défensivement, dans cette ligue-là. Donc, au classement général, premier Montréal, deuxième Laval, troisième McGill, quatrième Sherbrooke. On y va maintenant avec la division 1 de football collégial. Il y avait 4 matchs le week-end dernier. Notre-Dame s'impose à Québec contre Limoilou 31-25. Lennoxville, Champlain-Lennoxville s'impose 31-21 contre Garneau à Garneau. André Grasset s'impose 31-21 au Vieux-Montréal. Et Saint-Jean-sur-Richelieu s'impose 26-8 du côté de l'île de Montréal à Vanier. Au classement, qu'est-ce que ça donne? Premier, André Grasset, 5 victoires, aucune défaite. Deuxième, Notre-Dame. Troisième, Limoilou. Champlain-Lennoxville, 4e, 3 victoires, 2 défaites. Vieux-Montréal, 5e. 6e, Saint-Jean-sur-Richelieu, 2 victoires, 3 défaites. Vanier, 1 victoire, 4 défaites. Et les derniers, ben, c'est Garneau avec 0 victoire et 5 défaites. Maintenant, dans la deuxième division, encore une fois, il y avait dans ce cas-ci 5 matchs à se mettre sous la dent le week-end dernier. Ça a commencé vendredi avec une victoire de Lévis contre Valleyfield 48-16. Sherbrooke qui perd contre Beauce-Appalaches 14-10. Trois-Rivières perd à Saint-Hyacinthe 32-17. John Abbott s'impose, perd à domicile 28-43 contre Lionel Groulx. Et Montmorency qui bat Édouard Montpetit 31-0. Classement général, Saint-Hyacinthe premier, deuxième Sherbrooke, troisième Lévis, quatrième Montmorency, cinquième Lionel Groulx, sixième Beauce-Appalaches, septième Trois-Rivières, huitième Édouard-Montpetit. Et neuvième et dixième, ben, c'est John Abbott et Valleyfield avec aucune victoire et 6 défaites. Et on termine le tout avec la troisième division de football collégial. Quand même, c'est intéressant de donner de la place aux équipes qui ont moins, je dirais, moins de ressources, moins de talent pour pouvoir performer au plus haut niveau, qu'ils puissent quand même avoir des équipes sportives parce que c'est un happening. Les gens vont quand même aller voir ces matchs-là. Donc, il y avait des matchs le week-end dernier. Il y en avait deux petits matchs. Victoriaville qui s'impose à domicile au stade Yvon-Paré 46-14 contre Lanaudière et Champlain-Saint-Lambert au parc Seaway 3 qui s'impose 42-35 contre Shawinigan. Au classement, qu'est-ce que ça donne? Ben, Champlain-Saint-Lambert, 4 victoires, 1 défaite. Deuxième, Victoriaville, 4 victoires, 1 défaite. Troisième, Outaouais. Quatrième, Houndstic. Cinquième, Shawinigan. Sixième, Lanaudière. Et septième, Drummondville. Donc, voilà pour cette ligue-là. Puis, on va parler un peu de cette division-là pour vous dire quand même que il y a la division Sud-Ouest et la division Nord-Est. Puis on n'en parle pas de la division Nord-Est, mais on va en parler parce que si j'en parle pas, qui c'est qui va en parler? C'est pas compliqué, la division 2, c'est une division. La division 1, c'est une division, hein? C'est la crème de la crème. Puis pour la division 3, il y a le Sud-Ouest et le Nord-Est. Parce que vous comprendrez que d'aller du Saguenay jusqu'en Outaouais, c'est loin. Et les gens là-bas, là, ce qu'on appelle plus loin, plus communément les gens des régions, eh bien, ils veulent aussi des équipes sportives et ça fait du bien à voir. Et vous allez voir que ces équipes-là, notamment, ben, ils ont gagné quelques petits titres dans le bol d'or de la troisième division. Donc, on commence avec les résultats du week-end dernier dans cette troisième division dans le Nord-Est. Donc, Chicoutimi qui perd à Rimouski 46-18 au complexe Guillaume-Leblanc. Thetford qui s'impose à domicile, qui perd à domicile 30-31 contre l'Apocatière, ça se passait au cégep de Thetford. Et Jonquière, les géants de Jonquière, 29-13, victoire à domicile au cégep de Jonquière contre Mérissy. Et je dis les géants de Jonquière là parce que c'est quand même des géants en termes de titres qu'ils ont eu. Parce que regardez ça, 2024, les champions du Bol d'Or, c'est Jonquière 24 à 20 contre l'Outaouais. Jonquière en 2023 également champion, 28 à 20 contre Victoriaville. 2022, 2021, 2019, Jonquière en finale, mais ils perdent la finale contre Beauce-Appalaches et contre Saint-Hyacinthe. Deux fois contre Beauce-Appalaches, une fois contre Saint-Hyacinthe. Donc quand même, Jonquière a un historique là-dedans, dans cette division-là. En 2005 aussi, ils étaient là, défaite 40 à 9 contre Sherbrooke. Donc voilà, sinon en termes des équipes les plus titrées de cette ligue-là, c'est pas mal Jonquière qui en a quand même 1, 2, 3, 4, 5. En 2016 également, 33 à 30 contre Saint-Lambert. 2006, 23 à 18 contre Lévis-Lauzon. Et 2007, 17 à 7 contre Allemand. Sinon, André Grasset l'a gagné 2 à 2 reprises. Valleyfield, ils l'ont gagné à 3 reprises. La Beauce, ils l'ont gagné à 2 reprises. Thetford, une fois. Sherbrooke, une fois. Et donc, voilà, Saint-Hyacinthe deux fois. Donc, ça fait plaisir de voir que quand même, il y a des joueurs et il y a du bon football de 3e division qui se joue dans notre belle province québécoise. Donc, 3e division, section sud-ouest et section nord-est. Les prochains matchs qui s'en viennent là dans la section sud-ouest, eh bien, c'est cette fin de semaine encore une fois. Samedi, le 4 octobre, Drummondville reçoit Victoriaville. Également, ce même samedi, 4 octobre, Saint-Lambert reçoit Lanaudière. Et Shawinigan se déplace du côté de Houndstick dimanche le 5 octobre. Et quant à la division nord-est, si certains d'entre vous veulent planifier un road trip, eh bien, les prochains matchs, c'est les 11 et 12 octobre. Donc, le 11 octobre, l'Apocatière qui se déplace du côté de Chicoutimi, Thetford qui se déplace du côté de Jonquière et Mérici au Patro, ça s'appelle le Patro Rock Amadour. Donc, c'est pas mal ça qui est écrit, là. C'est vraiment écrit Patro Rock Amador, c'est peut-être, pas trop pour patrocinador en espagnol, mais je pense pas. C'est vraiment ça que tu écris. Patro Rock Amador, le 12 octobre, Mérici qui reçoit nos amis de Rimouski qu'on salue. S'il y a des gens qui nous écoutent depuis Rimouski, hein, qui ont fait des études à l'Université de Montréal ou à l'Université de Sherbrooke qui sont branchés sur CSM ou CFAC, on vous salue. Et Mérici, c'est tout simplement dans la région de Québec City. Et oui, ça s'appelle vraiment le Patro Rock Amador. Donc voilà, si vous allez faire un tour au Rock Amador, eh bien c'est le 12 octobre 2025 à 13h. Pas un match en soirée quand même, c'est poche, ça aurait été bien que ce soit un match en soirée, mais c'est un match en plein après-midi à 13h. Donc voilà, chers auditeurs, chers auditrices, merci beaucoup d'avoir été là. C'est ce qui met fin à cette émission du Terrain Sportif, édition du 29 septembre 2025. On se revoit la semaine prochaine sur les ondes de CSM et de CFAC. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Merci et au revoir. Une amie.
mêlée de mélancolie.
Sache que tu n'es que ce que tu chasses, quoi que tu fasses, quoi que tu caches, tu n'es que ce que tu suis, quoi que tu fuis, tu n'es que ce que tu vises, quoi que tu dises.
Ces moqueries que l'on t'adresse, la veille était des caresses. Soudain te lasse et te blesse.
Sache que tu n'es que ce que tu chasses, quoi que tu fasses, quoi que tu caches, tu n'es que ce que tu suis, quoi que tu fuis, tu n'es que ce que tu vis. Zéro ou l'infini.